Frères et sœurs, les amis, dimanche dernier, dans l'évangile, toujours, de saint Marc, nous avions assisté à l'envoi en mission des 12 pour la première fois. Donc je ne reviens pas dessus. On sait qu'ils partaient, proclamaient qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile, guérissaient des malades. C'est la carte d'identité de la mission même des 12. Et nous voyons aujourd'hui dans l'Évangile, au chapitre 6, versets 30 à 34, que les 12 ont fait exactement ce qu'ils voyaient faire par leur maître, par Jésus lui-même. Alors, il ne s'agit pas ici d'un mimétisme, mais il s'agit tout simplement de reproduire ce à quoi les 12 croient et adhèrent. Et ils adhèrent à quoi ? Ils adhèrent non pas tant à un homme, mais ils adhèrent à l'enseignement et le contenu de l'enseignement de cet homme, c'est-à-dire sa parole, tout simplement. Dans l'évangile de ce jour, on peut noter que le début de la mission du Seigneur et celui de la mission des 12 sont donc tout à fait semblables. J'allais dire même le lieu géographique est le même, la Galilée, et surtout le contexte. Jésus a commencé sa prédication et sa pérégrination, souvenez-vous, après que Jean le Baptiste eût été livré. Donc les apôtres commencent à leur tour au moment de la mort de Jean le Baptiste. Marc a raconté son arrestation, son exécution dans l'intervalle, mais le contenu de l'enseignement n'est pas ici précisé. Pourquoi ? Parce qu'il ressemble, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfaitement à l'enseignement du Maître. Après que Jean le Baptiste eut été livré, Jésus vint en Galilée, il proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Je pense que dans ce verset de l'évangile, tout est parfaitement résumé. Voici donc que les 12 vont partir en mission. Et une petite distinction s'impose ici. C'est la première fois dans le texte que nous lisons que saint Marc emploie le mot apôtre qui signifie envoyé par rapport à disciple qui dit enseigner. Donc il faut bien à la fois intégrer la distinction. Le disciple, qui dit disciple, dit maître. C'est quelqu'un qui reçoit donc l'enseignement du maître. Et parce qu'il reçoit l'enseignement du maître, il devient apôtre, c'est-à-dire envoyé. Étymologiquement, c'est ça que ça veut dire, pour partager la richesse de l'enseignement qu'il vient de recevoir. Deuxième point de notre méditation, très curieusement, la première chose qui est proposée à ces apôtres, c'est de prendre de la distance. Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. Et là, il y a un parallèle à faire avec le Maître, avec le Christ et Seigneur. On sait très bien que, après avoir prêché, après avoir abondamment enseigné, guéri les malades, chassé les démons, eh bien, le Seigneur se lève tôt le matin pour aller dans un lieu désert et prier. Bon, c'est une manière de s'arracher au succès. Nous savons très bien que il en est de même pour chacun et chacune d'entre nous. Être à l'écart pour prier n'est pas une fuite, mais tout simplement une nécessité de se retirer pour laisser, entre guillemets, ruminer l'enseignement du Maître, la parole de Dieu, en chacun de nos cœurs. Nous sommes donc, nous tous, invités à en faire autant. Alors méfions-nous aussi du succès. Le succès, c'est très bien, mais ça peut parfois nous monter à la tête et il faut arriver à trouver cet équilibre entre l'enseignement que j'ai reçu et que je dois évidemment partager et les succès mondains que nous pouvons parfois rencontrer, dont cette nécessité de se mettre à l'écart pour laisser germer à la fois l'enseignement et la parole de Dieu en nous est tout à fait nécessaire. Mais malgré cela, nous voyons bien que la foule suit le maître et le disciple. En quelque manière, elle s'impose. Alors, vous me direz, c'est bien, parce que ça montre l'urgence de la mission, mais aussi la fin, F-A-I-M bien sûr, de cette foule qui parfois restait plusieurs jours à l'écouter. Et nous savons que cette foule qui persiste à suivre le maître, entre guillemets, là aussi, imposera le Seigneur à les nourrir et faire la multiplication des pains. Donc nous constatons en définitive que Jésus a reçu un très bon accueil de la plupart de ses contemporains, mais on sait très bien que c'est au cœur de cet accueil et donc du succès de cet accueil que s'est déclenchée l'inquiétude aussi des autorités religieuses de l'époque. C'est pour ça qu'il faut toujours, toujours se méfier du succès qui oriente les feux de la rampe sur la personne autour de laquelle tourne ce succès et peut-être exploité, j'allais dire, surtout aujourd'hui, par les médias et donc par une très mauvaise interprétation de ce succès qui peut entraîner jalousie et le contraire de l'attroupement et de la fin de l'écoute des personnes, mais plutôt la jalousie. Voilà, donc cet équilibre est très important à conserver dans notre vie. Je pense qu'il en est de même dans une famille, dans un couple. Il faut à la fois prendre des distances par rapport aux enfants, non pas les laisser tomber, bien sûr, mais pour que vous puissiez vous retrouver tous les deux, pour ressourcer les batteries, pour être mieux encore à l'écoute de l'ensemble de la famille, à l'écoute des nécessités inhérentes à la bonne marche d'une maison. Et ça, c'est à faire, à mon sens, régulièrement. En débarquant, pour revenir à notre texte, nous voyons que Jésus vit cette grande foule. Et il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. C'est le dernier verset de l'évangile que nous écoutons et que nous recevons aujourd'hui. Alors il se mit à les instruire longuement. On voit bien que la mission première du berger, c'est l'instruction, ce qui nous permet de nous rappeler que la responsabilité première des parents, c'est l'instruction religieuse, c'est-à-dire ne jamais oublier la nourriture du cœur et de l'âme, par la catéchèse, bien sûr, mais aussi par l'exemple que nous pouvons donner autour de nous. Donc le Seigneur va les instruire d'abord et multiplier les pains ensuite. Hein, on voit bien là aussi l'équilibre qu'il y a entre la nourriture terrestre et la nourriture spirituelle. Comprenons bien le mot pitié. Ce n'est pas une pitié condescendante, mais c'est une pitié émouvante. C'est-à-dire c'est le cœur même du Christ, on pourrait dire ses entrailles, ils sont bouleversés par cette multitude qui le suit, et l'appétence, si je puis dire, de cette foule à être nourrie de la parole de Dieu et bien évidemment du pain. Parce qu'évidemment, on sait très bien qu'il y a deux manières de les nourrir, à la fois spirituellement et matériellement. Quelles leçons retirer de cet évangile ? Eh bien, moi, je vois deux points qui me semblent importants. La nécessité de travailler, c'est-à-dire de s'instruire de la parole de Dieu. J'allais dire, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un maître, mais de lire la parole de Dieu un peu tous les jours, de prendre un verset ou un autre que l'on peut partager en fin de journée avec ses enfants. Moi, je suis frappé de voir notamment la préparation des fiancés au mariage, que sur une dizaine de couples, pratiquement personne n'a ouvert la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'avais insisté pour que, avec les couples accompagnateurs, nous puissions commencer toujours par la parole de Dieu, même si elle est totalement inconnue de la part des auditeurs qui sont là, à la fois pour faire comme le Christ, hein, c'est-à-dire donner l'essentiel qui est cette nourriture spirituelle, et on s'est rendu compte que cela a remporté une très large adhésion, et ce qu'on a pu appeler très modestement, bien sûr, la lectio divina avec les fiancés, a été couronnée d'un certain succès malgré tout, sans pour autant s'envoyer des fleurs. Alors cette nécessité de ruminer la parole de Dieu, de la laisser se décanter en chacun de nos cœurs pour porter du fruit, me semble être tout à fait nécessaire. Et le deuxième point, c'est ne pas garder cela pour nous, bien sûr, c'est que chacun, par notre baptême, une fois de plus la référence au baptême, eh bien nous sommes apôtres, nous sommes envoyés, parce que nous sommes disciples du Seigneur, nous sommes envoyés auprès de nos proches pour, pas forcément les enseigner, mais montrer par notre témoignage que le fruit de l'enseignement que nous avons reçu, eh bien, se dégage de notre personne et de notre personnalité pour faire croître et grandir le royaume de Dieu. Amen.